Les impacts de la pandémie, Philippe, là, c'est un sujet très, très vaste. Ben, tu n'as pas besoin de faire un dessin. Économiquement, socialement, psychologiquement, les finances publiques, etc., il y a plein d'impacts. Sur le sport, ben, il y a le sport professionnel puis il y a le sport de masse.
Oui, puis ce sont deux réalités différentes. Hein. Un an plus tard, je pense que le constat est très, très clair à ce niveau-là, Patrick. Souviens-toi comment tout a débuté dans le sport professionnel. C'était le mercredi 11 mars. Dernier, en 2020, quand tout à coup, le soir, on apprend qu'il y a un match de la NBA qui est suspendu. On devait jouer le match, les deux équipes vont sur le terrain pour s'échauffer, puis finalement, on attend, puis il y avait un joueur qui avait reçu un diagnostic positif de COVID. On a décidé d'arrêter le match. Je me souviens que ça... Ben, en fait, de ne pas le présenter, les joueurs sont tournés au vestiaire.
Ça a frappé l'imaginaire.
Oui, puis on disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Puis là, il y a un autre match qui est annulé, puis coudonc, voyons, c'est tout si sérieux que ça.
Parce que Philippe, en dehors des tempêtes de neige monstre puis des cataclysmes naturels, d'habitude, le sport professionnel s'arrange pour présenter ses matchs.
Tout à fait. Puis on savait que la COVID était là, elle était présente, mais c'était encore une réalité qui était loin de nous. C'était en Italie, c'était en Espagne, il y avait des écoles qui commençaient à être fermées, mais on la sentait pas, là, la pandémie en train de frapper en Amérique du Nord. Et c'est par le sport professionnel que c'est arrivé d'abord et avant tout avec ces matchs annulés. Là, le lendemain, la Ligue nationale de hockey qui suspendait sa saison, les autres sports aussi, les écoles qui fermaient. C'est vraiment arrivé comme un coup de masse. Et là, à ce moment-là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui va arriver avec le sport professionnel? Est-ce qu'on va réussir à reprendre ça? Est-ce qu'on va réussir à sauver un semblant de saison? Et un an plus tard, ben, on constate que pour les pros, ma foi, ça a été pas trop mal. On a couronné des champions dans les cinq grands sports. Il y a eu un champion du Super Bowl, un champion de la Série mondiale, un champion de la Coupe Stanley, un champion de la NBA, un champion de Major League Soccer. Ça a été plus difficile au baseball où on a joué vraiment un calendrier tronqué, là, 100 matchs de moins qu'à l'habitude. Mais quand même, on s'est rendu jusqu'au bout de l'exercice. Si on regarde les sports individuels, le golf et le tennis, les quatre majeurs, oui, les autres tournois, il y en a eu beaucoup d'annulés, notamment la Coupe Rogers ici à Montréal, mais dans les quatre majeurs, il y a simplement ceux présentés en Angleterre qui ont été annulés en 2020, Wimbledon au tennis et le Open, le British Open au golf. Pour le reste, on a réussi à jouer les majeurs. Ça n'a pas été aux dates habituelles. Le tournoi des maîtres qui est en avril, ça a été très tard en automne. Bref, il y a eu des changements, mais l'industrie s'est adaptée. Même le Tour de France, souviens-toi, on en avait parlé, il y a des analystes, des spécialistes de la santé publique qui disaient le Tour de France, là, c'est potentiellement une catastrophe en septembre parce que ça se promène, la caravane du Tour se promène dans tout le pays. S'il y a des gens qui sont infectés là-dedans, ils pourraient, tu sais, faire en sorte
contaminer tout le monde.
Exactement. Mais finalement, on a couronné un champion puis ça ne s'est pas produit. Alors, on pourrait dire que non, pas trop mal, mais quand on y regarde de plus loin, ben, on le sait que non, c'est pas trop mal, c'est plutôt mal parce que tous les jeunes ont vu leur pratique de sport terminée. Ils n'ont pas encore...
Pour la relève aussi, là, la donne est différente.
Oui, exactement. La Ligue américaine de hockey, sa saison, elle n'a pas repris. Le hockey junior majeur, on sait combien c'est difficile. On reprend, on arrête une bulle, on attend, on reprend. T'sais, c'est une saison qui est perdue. Même chose pour tous les championnats universitaires. Il y a beaucoup d'athlètes universitaires dans football, en soccer, en hockey, qui c'était peut-être leur dernière année à l'université, puis c'était leur dernière année de briller comme étudiant-athlète. Ils l'ont perdu, ça se retrouvera pas. Alors, il y a vraiment deux mondes là, au niveau de la pandémie dans l'effet sur le sport. Le sport professionnel, avec tout son immense réseau, son argent, son immense structure, a réussi à se ménager une porte de sortie acceptable. Pour les autres, ça a été une catastrophe.
OK, parlons un peu de sport professionnel, de sport pur, là, parce que dans la NFL, il y a J.J. Watt, c'est un ex de Houston, ça, qui a signé un contrat avec l'Arizona.
Oui, puis ça, c'est un. J'en parle, évidemment, je ne parle pas de toutes les signatures de joueurs autonomes dans le football.
Mais pourquoi lui?
C'est un gros nom, J.J. Watt, un excellent joueur des Texans de Houston, puis qui a eu un impact majeur dans la communauté aussi, à bien des niveaux. C'est un personnage dans la Ligue nationale de football. Il ne voulait plus jouer à Houston, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il y a bien des gens qui les fans de plusieurs équipes espéraient qu'ils rejoindre leur équipe, mais il est allé finalement avec les Cards de l'Arizona. Et j'en parle aussi pour faire... On en a parlé, toi et moi, récemment, là, en parlant du fameux contrat de Fernando Tatis Jr., ce jeune joueur de baseball qui vient de signer un contrat de 340 millions de dollars pour 14 ans. Et au baseball, c'est garanti. Il signe pour 340 millions pour 14 ans. Il recevra 340 millions à 14 ans. Mais encore une fois, je veux juste expliquer la différence. J.J. Watt, super vedette, grande star dans la Ligue nationale de football, signe aujourd'hui un contrat de 2 ans pour 31 millions US. Est-ce qu'il va toucher 31 millions US? pas sûr. La portion garantie, c'est 23 millions.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, mais tu sais, encore une fois, les chiffres, quand on dit 31 millions, ben c'est pas tout à fait ça. C'est moins, puis s'il est blessé ou si sa performance décline puis qu'il joue plus, ben il touchera pas autant.
Philippe, la NFL est quand même riche. Comment ça se fait que les joueurs, dans leur rapport de force avec les propriétaires, avec la Ligue, n'ont pas réussi à imposer des contrats garantis?
C'est pour moi, Patrick, tu viens de trouver de mettre le doigt sur ce que je trouve qui est le plus grand mystère dans tout le sport professionnel depuis des années. Le fait qu'au football, un sport aussi violent, on est tellement susceptible d'être victime d'une blessure grave. Pourquoi les contrats ne sont pas garantis? Je te dirais essentiellement un facteur, c'est que les syndicats de joueurs au football n'ont jamais été forts, il n'y a jamais eu une solidarité comme au baseball. Le baseball, c'est un modèle. Ils ont tenu vent contre vents et marées, ils se sont tout le temps tenus ensemble. S'il a fallu faire des arrêts de travail, ils ont fait, ils sont restés solidaires, ils ont arraché des gains significatifs aux propriétaires qui réussissent très bien à boucler leur budget, soit dit en passant. Au football, ça n'a pas été ça. En 87, il y avait eu un conflit de travail. On avait réussi à briser le syndicat. Et depuis ce temps-là, ça n'a jamais vraiment repris. Il n'y a jamais eu la même culture de solidarité syndicale dans la NFL qu'ailleurs.
Notre metteur en onde, qui est un grand amateur de football, me glisse à l'oreille, 52 joueurs, donc beaucoup, beaucoup de joueurs. Peut-être deux fois plus, disons, que mettons au hockey. Là. Et aussi, c'est beaucoup de blessures, beaucoup de contacts. Ouais. Est-ce que ça peut expliquer?
Oui, ça explique en partie, mais ça devrait être... C'est sûr que les propriétaires disent ça. Oui, vous pouvez être blessé, mais ça devrait être une raison de plus pour qu'on garantisse leur contrat, parce que c'est tellement pernicieux. Prends un joueur, Patrick, qui reçoit un coup à la tête au football, puis qui sait, là,
il voit des étoiles.
Mais son poste n'est pas garanti dans l'équipe. Est-ce qu'il y a avantage à le dire à son équipe médicale qui ne se sent pas bien? C'est ça. Ça, c'est un problème.
Et tu l'as mentionné, au baseball, très revendicateur. Le syndicat des joueurs au baseball, c'est un peu la CSN des syndicats. Je veux dire, ils ont tenu leur bout. Ouais. Écoute, ils ont même forcé une révision des lois du travail.
Oui, tout à fait. Sur tout le statut de joueur autonome et tout, là, ils ont été des précurseurs.
Bon, voilà. Dans la vie, t'as pas ce que tu mérites, t'as ce que tu négocies.
Oui, exactement.